Pour voir le royaume des cieux, il faut naître d'en haut. Connaître le Fils de l'homme qui est dans le ciel. En vérité, tu te dois naître à nouveau. Et Jésus te donnera la vie éternelle. Viens au Saint-Esprit, viens vivre dans mon cœur. Viens remplir mon âme de ta chaleur. Viens au Esprit Saint, conduis toute ma vie. Car elle s'abandonne entre tes mains. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Ainsi en est-il de tout homme naissant de l'esprit. Ne marchons pas avec la vue, mais par la foi. Viens vivre dans mon cœur. Viens remplir mon âme de ta chaleur. Viens au Esprit Saint, conduis toute ma vie. Car elle
décrire exactement ce qui se passe dans le moment face au corps du Christ. Mais avant de commencer, j'aimerais dire à tous ceux qui vont l'avoir en leur possession qu'il est permis pour eux d'en faire des copies, de les faire écouter ou même de la donner parce qu'elle vous est offerte gratuitement. Seigneur nous demande simplement, ce que vous ai donné gratuitement, donnez-le gratuitement. On va commencer sur cette cassette à parler justement comment les arracher au feu. À quel endroit qu'il nous ait parlé du feu? On en revient face à la deuxième cassette qui avait été faite. Dans le plan du salut, il était donné comme exemple le jugement des nations en Matthieu 25. Si on regarde le début du texte, il dit que Jésus va venir séparer les boucs entre les brebis. Il va mettre les brebis à sa gauche, les boucs à sa droite. À quoi pourrait-on comparer les brebis? Et à qui pourrait-on comparer les boucs? Si on s'en réfère aux paroles du Christ qui dit qu'il connaît chacune de ses brebis, les brebis ont été toujours sur l'image de ceux qui écoutaient le pasteur, le bon berger, le véritable pasteur, qui est nul autre que le Christ. Les boucs, à qui pourrions-nous les comparer? À ceux qui, tout en prétendant croire au Christ, croire en son salut, ne font qu'à leur tête, méprisant les commandements du Seigneur, injuriant les gloires de Dieu. Si on s'en remet à ce que Jésus a dit lui-même en Matthieu 7, beaucoup viendront lui dire un jour-là, « Ben, c'est en ton nom qu'on a parlé sur les places, c'est en ton nom qu'on a guéri les malades. » Et Jésus de leur répondre, « Je ne vous connais pas. Allez au feu, ouvriers d'iniquité. » À qui pourrait-on comparer ces boucs? Avant de parler clairement qui sont-ils et que font-ils, j'ai une expérience de vie à vous conter. Il y a 20 ans, je connais un homme qui était au bord du désespoir, qui, pour cet homme, avait réalisé que dans le monde, à la façon que le monde agissait, il ne voyait pas d'amour. Tout ce que cet homme cherchait, c'était l'amour véritable. Faire les 7 ans de sa vie, il s'est aperçu que cet amour-là, il ne la trouvait pas dans le monde. Il y eut une révolte en lui qui l'a emmené progressivement dans le mal, aller jusqu'au désespoir. Le jour qu'il avait pris de mauvais desseins, il entendit une voix. Cette voix pour lui s'est faite entendre par 3 fois. La première fois, lorsqu'il l'entendit, il croyait être fou. Parce que la voix disait, je ne jetterai pas dehors celui qui vient à moi. Croyant entendre des voix, il se dit, je suis mieux d'en finir, je suis en train de devenir fou. La deuxième fois qu'elle se fit entendre, elle se fit entendre encore plus forte. Je ne jetterai pas dehors celui qui vient à moi. À ce moment-là, cet homme regarda autour de lui pour chercher qui lui parlait. Ne voyant personne, posa une question ouvertement, mais qui est-ce qui parle? Le troisième coup, la voix vint de l'intérieur. Cette voix lui montra que c'était Jésus qui parlait. Il ne jettera pas dehors celui qui se tourne vers lui. Pour la première fois de sa vie, cet homme réalisa tout l'amour qu'il y avait dans cette voix. Malgré tout son passé chargé de péché, malgré sa rébellion, sentait que quelqu'un l'aimait vraiment, au point de ne pas regarder ce qu'il avait fait, mais de regarder simplement à l'amour qu'il lui démontrait. Cet homme, ce jour-là, prit une décision, celle de simplement écouter cette voix et vivre par elle. Au cours des années, cet homme fut confronté à des religions, à des pasteurs, à des prêtres. Tout ce que cet homme faisait, c'est de lui transmettre cet amour qu'il avait compris. Au travers de toutes ces années-là, les réponses qu'il eut de la part de ses prêcheurs, de ses pasteurs, étaient qu'il était un maudit de Dieu. Était du fait que, face au Seigneur, il n'était pas regardé comme un de ses enfants. Il y a eu jusqu'à des pasteurs qui se sont permis de jeter son corps à GN. Mais au travers de toutes ces animosités, au travers de toutes ces réflexions qui lui furent faites, cet homme se tournant vers Jésus lui dit, « C'est vrai, j'ai l'air maudit, mais pourquoi que dans le fond de mon cœur, je peux encore aimer et te demander de les pardonner parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Alors une voix vint, il dit, « Maudit soit quiconque est pendu au gibet. J'ai fait passer mon fils pour maudit. Si aujourd'hui ces gens te regardent comme une personne maudite, c'est parce que je te considère comme mon fils. » Depuis ce jour, il y a une décision qui a été prise dans le cœur de cet homme. C'est qu'il ne laisserait aucun enseignement tenter de le séparer de cet amour qu'il avait rencontré. Aujourd'hui, cet homme, face à ce qui est prêché par les églises, par les religions, est dans un découragement, mais non désespéré, parce que son espérance est encore portée envers le Christ, envers le Seigneur Jésus, au point d'écrire pourquoi. Pourquoi qu'au travers de toutes ces années, au travers des messages qu'il a reçus et transmis, cet homme est encore sous la malédiction de ses pasteurs, de ses prédicateurs. Aujourd'hui, sur cette cassette, on va tenter d'établir qu'est-ce que ces religions-là prêchent face aux enfants de Dieu. Comment qu'ils atteignent les enfants de Dieu? Comment est-ce qu'ils les poussent vers le découragement et même vers le désespoir? Parce qu'au lieu de les soigner, ils les blessent encore davantage. Au lieu de les exhorter, ils les mettent sous la malédiction. Au lieu de leur tendre la main, finissent par même les écraser. Aujourd'hui, cette cassette va être dédiée autant à ceux qui ont été écrasés qu'à ceux qui tentent de les écraser. Si on en revient à l'apôtre Paul, l'apôtre Paul, là, pratiquement 2000 ans, disait que dans son fort intérieur, dans son âme, il sentait les douleurs de l'enfantement. Il aurait aimé voir ce corps du Christ prendre naissance. Il aurait aimé voir le corps du Christ dans toute sa plénitude. Pourquoi disait-il qu'il souffrait les douleurs de l'enfantement? Parce qu'il voyait toute l'opposition. Déjà dans son temps, beaucoup avaient apostasié le Christ. Beaucoup même de son temps, gardant en apparence les formes de piété, faisaient de longues prières. Mais ils en avaient renié la puissance. Est-ce qu'on pourra encore dire aujourd'hui que Dieu se sert d'homme en tant qu'apôtre? Est-ce qu'on pourrait dire que Dieu se sert d'homme en tant que prophète? Ou en tant qu'évangéliste? Ou en tant que docteur et pasteur? Oui, les temps passent, mais les paroles du Christ ne changeront pas. Les paroles qu'il a transmises aussi à ses disciples ne changeront pas. Dieu a établi premièrement les apôtres, deuxièmement les prophètes, troisièmement les évangélistes, quatrièmement les docteurs, suivis des pasteurs. Pourquoi ces églises ont-elles élevé le pasteur au-dessus de tous les ministères, au-dessus de la hiérarchie que Dieu lui-même avait établie? Est-ce parce qu'il ne croit plus au Christ? Quel est ce salut qu'il prêche? On en revient au travers des paroles du Christ. C'est par la foi qu'on est justifié. C'est par la foi en Jésus, en sa mort et en sa résurrection, qu'on est justifié. Mais dire que par la foi, nous croyons à Jésus, est-ce qu'il suffit de dire « Je t'accepte comme mon sauveur » pour nous assurer le salut? Ou si par la foi, nous croyons vraiment tout ce que Jésus nous a enseigné? Ou si par la foi, nous suivons les directives qu'il a données? Comme il est dit aux apôtres, « Allez de par toutes les nations, faites des disciples. Ceux qui croiront, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. » Est-ce que les pasteurs d'aujourd'hui, les prédicateurs d'aujourd'hui ou les prêtres d'aujourd'hui ont gardé ces préceptes que Jésus avait prescrits? Ou préfèrent-ils plutôt amener « prends pas, goûte pas, touche pas » pour mettre les enfants de Dieu sous un joug? Jésus nous demande de bénir même ceux qui nous maudissent. Mais ces gens injurient même ce qu'ils ignorent. Au lieu de bénir, ils sont prêts à mettre les enfants de Dieu sous un anathème, sous une malédiction, et même de livrer leur corps à Satan, simplement parce que ces enfants de Dieu n'ont peut-être pas les moyens de leur donner de l'argent. Parce que ces enfants de Dieu sont peut-être pas assidus à leur assemblée, parce que ces enfants de Dieu souffrent, parce que ces enfants de Dieu sont malades ou ont faim. Ont-ils oublié que Jésus, au jugement, parle justement qu'au travers du plus petit d'entre les siens, si ça ne l'a pas été fait, il leur répond « Allez au feu, maudit ». Comment se fait-il que des pasteurs actuels vont vous dire qu'il suffit d'accepter Jésus comme sauveur, qu'il n'est pas nécessaire de faire aucune œuvre, alors qu'il est impossible d'avoir la foi sans les œuvres? Ce n'est pas les œuvres qui vont conduire au salut en tant qu'œuvre, mais la foi sans les œuvres, c'est une foi morte. La foi amène la justification, mais les œuvres viennent confirmer que la foi au Christ est réelle. C'est pas en se croyant méritoire, c'est simplement qu'en accomplissant la parole de Dieu, on reconnaît que Jésus est venu l'accomplir. Jésus nous dit spécialement qu'il n'y a aucun serviteur supérieur au Maître. Si on compare chacun de ses prédicateurs, chacun de ses pasteurs dans le moment, si eux-mêmes se comparaient aux disciples, lequel des disciples, tribut supérieur à Jésus, en disant qu'il a la vie en plénitude sur le plan humain. La plupart des disciples, s'ils n'ont pas été martyrisés, ont été persécutés. Alors que ces pasteurs-là, aujourd'hui, se voyant même supérieurs au Christ parce qu'ils n'y croient même plus de leur cœur, vont vous prêcher qu'à travers du Christ, tout va bien. Il n'y a plus de maladie, il n'y a plus de péché, il n'y a plus de façon de perdre leur salut. Pourtant, si on en revient au salut, Paul fait mention dans Timothée, afin de ne pas imposer les mains trop vite à un nouveau converti, afin de lui confier un ministère, de peur qu'il encourt la même condamnation que le diable. Est-ce qu'un ministère pourrait être confié à quelqu'un qui n'aurait pas reconnu le Christ, à quelqu'un qui ne serait pas sauvé? C'est donc au moment où c'est confié à un converti veut dire quelqu'un qui s'est tourné vers Dieu, qu'il peut encourir la même condamnation que le diable à cause de l'orgueil, est-ce qu'à ce moment-là, celui qui a reçu le ministère est-il sauvé? Il n'est pas sauvé. Il dit qu'il peut encourir la même condamnation que le diable. S'il encourt la même condamnation que le diable, c'est qu'il va au feu. En plus, on pourrait regarder encore face à Timothée. Il nous dit qu'il y en a à cause de la cupidité. On fait naufrage face à la foi. C'est donc qu'ils avaient la foi, mais que la cupidité les a emmenés à leur perte. S'ils sont à leur perte, ils ne peuvent pas dire qu'ils sont sauvés, ils sont perdus. Jésus lui-même, en revenant dans Matthieu 7, quand il dit « Je ne vous connais pas, vous êtes des ouvriers d'iniquité. » Pourtant, ces gens-là disent qu'ils ont prêché en son nom, qu'ils ont parlé sur les places en son nom, qu'ils ont guéri malades en son nom. Jésus leur dit, allez-vous-en, je ne connais pas. Vous êtes des ouvriers d'iniquité. Comment se fait-il que tant de gens s'accrochent à ces pasteurs, à ces usurpateurs de la parole, qui se servent de la parole du Christ simplement pour exploiter les enfants de Dieu? Quand est-ce se tourne-t-il vers les enfants de Dieu qui souffrent? Quand est-ce se tourne-t-il vers les enfants de Dieu qui ont faim? Il se tourne vers ces enfants-là simplement pour tout recevoir d'eux autres. Le Seigneur, au travers de ses disciples, disait, celui qui veut être le plus grand doit être le serviteur de tous. Est-ce que ces pasteurs, est-ce que ces prédicateurs dans le moment se servent-ils pas de tous pour les servir? Qui devrons-nous croire? Au travers de la Bible, il y a seulement Jésus qui est vérité. Jésus est venu accomplir la vérité. Il est venu vivre la vérité. Il a promis à tous ceux qui y croiraient de vivre à travers de cette vérité. Jésus nous dit que ceux qui croiront feront les mêmes œuvres que lui, puis même encore davantage. Est-ce que ces pasteurs, du fait que ces œuvres-là ne sont plus là, du fait que la majorité ne croit pas au miracle, du fait que la majorité ne croit même plus à l'Esprit-Saint, les langues de feu, je serais prêt à demander à ces pasteurs-là de me montrer dans leur Bible à quelle place il dit que les langues de feu n'étaient plus réelles. Quand on entend des pasteurs dire qu'il n'est même pas nécessaire de faire d'œuvres, parce que les œuvres ne sauvent pas, n'est-ce pas un mensonge qu'il nous est dit? Si on regarde dans les débuts des réformes avec Luther, Luther prenait pour exemple que l'épître de Jacques était une épître de paille, qui n'avait rien à voir avec les apôtres. Pourtant, Jacques était vraiment le frère de Jésus. Jude était vraiment le frère de Jésus. Il y a une mention dans la Bible, au travers de Paul, comme quoi qui salue les apôtres, les frères, mais spécialement Jacques, le frère, notre bien-aimé sauveur. Pourquoi fait-il une différence entre les apôtres et le frère réel de Jésus? Comment est-ce que des gens qui se disent réformistes, comment est-ce que des gens qui veulent vous montrer simplement qu'en usant de la parole de Dieu, ils peuvent vous emmener au salut? Il y a seulement que la foi en Jésus, la foi en ce qu'il nous a prescrit, la foi en accomplissant sa parole. Jésus nous dit, lui, met ses paroles en pratique. La vérité le rendra libre, et que lui-même viendra faire sa demeure au-dedans de lui. Est-ce que ces gens qui vous prêchent peuvent affirmer « Jésus vit au-dedans d'eux autres » Jésus nous demande de donner à manger même à nos ennemis. Ces gens-là, dans le moment, la minute que quelqu'un rentre en contradiction avec ce qu'il prêche, lui mettre des anathèmes sur le dos, tente de jeter leur corps à GN dans le but de sauver leur âme. Mais n'est-ce pas un jugement contre eux autres même qu'ils portent? Comment peuvent-ils s'immiscer au point de dire qu'ils ont la vérité alors que Jésus seul est vérité? Jésus nous dit, ceux qui vont boire à sa source, des fleuves d'eau vive couleront d'eux. Mais est-ce que ces pasteurs-là, ce sont des fleuves d'eau vive qui coulent? Ou simplement des fleuves de malédiction? Des fleuves prêts à vous emporter à votre perte? Des fleuves qui vous emmènent au naufrage face à la foi? Mais qui sont ces pasteurs? On en revient encore à Luther. Luther, il disait simplement le salut par la grâce. C'était simplement ça qui comptait. Les œuvres n'avaient pas besoin d'être là. N'est-ce pas déjà une partie qu'il vous prêche dans le moment? Pourtant, Jésus, comment pourrions-nous simplement lui prouver qu'on l'aime? Au travers du temps où on ne méritait même pas de miséricorde, quoi que ce soit, déjà il a donné sa vie. Est-ce par nos mérites? Non, c'est à cause de son amour. Au travers de Jude, il nous demande de les arracher au feu. Il ne nous a pas demandé de les envoyer au feu. Comment ces pasteurs peuvent-ils se permettre d'envoyer chez le diable tous ceux qui ne sont pas d'accord avec eux? Moi-même, aujourd'hui, je prie Seigneur de les ouvrir les yeux, malgré toutes les anathèmes ou toutes les malédictions qu'ils m'ont dit au cours des ans. Je prie Seigneur qu'il leur ouvre les yeux avant qu'il soit trop tard. Si on en revient à l'amour de Dieu, Paul nous dit, qui va nous séparer de cet amour-là, de la grandeur, de la profondeur, de la hauteur, de l'immensité de cet amour qui nous envahit le cœur? Comment se fait-il qu'il y ait tant d'enfants de Dieu? Après avoir passé entre leurs mains, sont même plus capables d'entendre parler du Christ. Est-ce que ces gens-là vont se taper dans les mains? Sous prétexte que pour eux autres, les seuls enfants de Dieu, c'est ceux qui prennent leur argent pour leur permettre de continuer à dire le mentir. Ils vous promettent des réveils. Comment peuvent-ils vous promettre des réveils alors qu'ils sont endormis au chloro-mensonge, pour ne pas dire chloroforme? Comment pourrait-il vous parler de l'Esprit Saint quand ils sont dans un coma spirituel? Tout ce qui est en dehors d'eux ne compte pas. Mais est-ce eux qui sont la vérité? Ou est-ce le Christ seul? Seul le Christ est vérité. Paul nous parle que même si un ange naît du ciel, qu'il soit pour annoncer un autre évangile que celle qu'il prêchait, c'est-à-dire celle de Jésus-Christ, Jésus-Christ vérité, qu'il soit anathème. Dans ces temps de technologie, dans ces temps où beaucoup de gens s'arrêtent sur l'ésotérisme, le nouvel âge, les soucoupes volantes, les extraterrestres, est-ce que ces gens-là vont entendre qu'un jour, une soucoupe volante arrêterait pour leur promettre un bonheur, leur promettre des guérisons, leur promettre une vie jusqu'à 1 000 ans sans problème? Vont-ils s'arrêter puis rejeter le Christ complètement sous prétexte d'avoir peur à ces bienfaits qu'ils vont leur promettre? Ou prendront-ils en considération l'avertissement de Paul, même si nous-mêmes ou un ange venu du ciel nous annonçait un autre évangile, qu'il soit anathème? Si on regarde au cours des ans, Paul disait qu'il souffrait les douleurs de l'enfantement. Au cours des années, je peux dire dans le moment qu'en dedans de mon cœur, face à l'Église, face au corps du Christ, je souffre. Je souffre, mais pas des douleurs de l'enfantement. Des douleurs d'agonisant. Du fait que dans le moment, je vois l'Église du Christ tellement harcelée de tous les côtés par des prêcheurs, par des usurpateurs de la parole, sont en train de faire mourir l'épouse. Vous pouvez mettre en doute ce que je dis, mais est-ce que vous pouvez mettre en doute la parole que le Christ a dit? À mon retour, trouverai-je la foi? À cause des progrès de l'iniquité, la foi du plus grand nombre va se refroidir. L'amour du plus grand nombre va se refroidir. Est-ce que dans le moment, les progrès de l'iniquité, qui vous prêche un Jésus bonbon, au lieu d'un Jésus vérité et un Jésus justice? Est-ce que ces gens-là vont hériter? J'en reviens au plan du salut. Jésus nous parle que ceux qui croient en lui, c'est-à-dire ceux qui l'ont reconnu, sont justifiés par la foi. Mais ceux qui croient en lui, qui vont faire les mêmes choses que lui, qui vont accomplir sa parole en toutes choses, ont la vie éternelle. Puis qui passent de la mort à la vie, sans venir en jugement. Mais de qui est-ce qu'il parle? Quand il dit « Allez au feu, j'ai eu faim, je ne m'avais pas donné à manger. J'ai eu soif, je ne m'avais pas donné à boire. J'étais nu, je ne m'avais pas vêtu. J'étais seul, vous n'êtes pas venu me visiter. » De qui Jésus parle-t-il? À qui s'adresse ce jugement des nations? À qui s'adressent les paroles de Jésus quand il dit « ouvriers d'iniquité » Quand même qu'ils ont guéri malade, quand même qu'ils ont prêché en son nom, il les appelle « ouvriers d'iniquité ». Ouvriers d'injustice, se sont accaparés des gloires de Dieu plutôt que de rendre gloire à Dieu. Se sont accaparés de l'argent des enfants de Dieu plutôt que se servir de l'argent des enfants de Dieu qui leur était donné pour subvenir à ceux qui en avaient besoin. dans les 12 que Jésus avait. L'un qui avait été choisi par Jésus. Mais c'est le seul qui tenait la poche. Toutes les offrandes qui ont été faites au Seigneur, ainsi qu'à ses disciples, étaient mises dedans. Mais lui, au lieu de s'en servir et le donner aux pauvres, s'en servait à ses propres profits. Est-ce que ces pasteurs, est-ce que ces prédicateurs, est-ce que ces prêtres d'aujourd'hui, est-ce que ces gens religieux sont tous devenus des Judas? Est-ce un jugement contre eux? Ou simplement un rappel à la repentance, un rappel à leur dire, Jésus est venu, Jésus a démontré comment le vivre, Jésus nous a appris comment y croire. N'est-il pas dit que le juste vivra par la foi? J'ai entendu un prédicateur dernièrement que pour lui, tous ceux qui souffrent à cause du péché, c'est ceux qui étant de descendance d'Adam, nous sommes pécheurs en naissance. Mais face au Seigneur, les enfants sont saints. Comment se fait-il que tant d'enfants qui souffrent? Est-ce que ce prédicateur, face à sa souffrance, pourrait me dire de quel péché il pourrait les accuser? Quand les disciples ont demandé à Jésus si ceux qui étaient devant eux avaient plus péché que ceux que la tour avait écrasé, Jésus leur a répondu, c'était simplement pour la gloire de Dieu. Lequel des serviteurs du Christ n'a pas passé par la souffrance? Est-ce que ce prédicateur se croit exempt de la souffrance? A-t-il simplement vraiment rencontré le Christ? Est-ce par la peur de manquer que ces prédicateurs sont prêts à tout vous vendre? Ou est-ce parce qu'ils sont achetés par les pécheurs qui veulent entendre des choses agréables? Est-ce un apostolat qu'ils font? Ou sont-ils devenus apostats? Comment se fait-il qu'ils ont tous peur de perdre ou de manquer? Manquer d'argent? Ont peur de ne pas être capable de payer leur loyer? Ont peur de ne pas être capable de payer leur automobile ou leur facture? N'est-ce pas de ce que Jésus nous disait? Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, le reste vous sera donné. Jésus lui-même nous dit que son serviteur n'aura pas mendié son pain. Mais est-ce que ces prédicateurs, ces pasteurs, ne sont pas-ils tous des quêteux dans le moment? Que ce soit l'Église, ça voudra, avant même de commencer à parler, ils vont vous passer la quête. Est-ce parce qu'ils ont peur de ne pas rentrer dans leurs dépenses? Est-ce parce qu'ils ont peur que leur message soit mal reçu, puis préfèrent simplement quêter d'avance plutôt qu'arriver au bout puis de voir qu'ils n'ont rien en tout? Ou méprisent-ils simplement la parole de Jésus? Cherchez premièrement le royaume et sa justice. Le reste vous sera donné par ce quoi. Le corps du Christ existe. Et j'y crois. Mais au travers des années, d'une parole que Jésus a dit qui revient souvent dans mon cœur, que je t'ai donné gratuitement, donne-le gratuitement. Est-ce que ces prédicateurs peuvent faire la même chose? Est-ce que ces prédicateurs peuvent se placer devant l'Évangile du Christ au lieu de simplement arrêter sur des passages au travers des épîtres? C'est sûr que n'importe qui s'assied avec une Bible peut tenter de justifier à travers la parole. Jésus lui-même nous parle que ceux qui viennent en leur propre nom, vous les recevez. Mais Jésus est-il venu en son nom? Ou s'il est venu simplement accomplir la volonté de Dieu? Si on regarde aujourd'hui, est-ce que dans notre cœur, nous croyons qu'il est venu accomplir la volonté de Dieu? Est-ce qu'en notre esprit, l'esprit rend témoignage que Jésus est vérité? Est-ce que notre esprit nous rend témoignage que les miracles, que les signes et toutes les prescriptions que Jésus nous a laissées sont encore véridiques? Aussi, on va s'arrêter à ce que ces prêcheurs, ces pasteurs vont nous dire du fait qu'il suffit simplement d'accepter Jésus dans notre cœur. Comment pourront-ils invoquer Jésus quand Jésus dit, c'est pas juste ceux qui vont dire Seigneur, Seigneur, qui vont être sauvés. Comment pourrait-il s'attribuer cette parole si déjà dans la base même de l'amour que Jésus est venu démontrer, ils n'y ont pas cru, en n'accomplissant pas les œuvres de la foi? C'est pas au travers de ses œuvres qui vont être justifiées. C'est au travers de la foi et de la réponse par les œuvres. Est-ce que les gens d'aujourd'hui qui ont été blessés par ces églises, parce qu'il allait leur témoigner dans leur cœur qu'il fallait qu'ils aident les pauvres, alors que ces pasteurs, au lieu de voir aux pauvres, préféraient que ces gens leur amènent leur argent, qui ont été exclus des synagogues ou des assemblées? Est-ce que ces gens-là, dans le moment, avec le cœur blessé, ne donnent pas l'image de l'épouse qui est agonisante à cause des progrès de l'iniquité? Mais qui sont ces ouvriers? En revenant à la première parole du début, arrachez-les au feu. Est-ce que dans le moment, c'est un jugement que je mets sur ces pasteurs, sur ces prédicateurs, ou c'est simplement de leur dire, réveillez-vous, revenez à l'enseignement du Christ, vivez-le par vos actes parleront plus fort que vos paroles. À ce moment-là, vous aurez l'assurance de votre salut. Dans le moment, ce salut qui prêche, ils le faussent. Oui, ils font profession de foi. Oui, en apparence, ils font des prières. Un peu comme le pharisien puis le publicain. Le pharisien se vantait de payer sa dîme. Se vantait qu'il n'était pas comme les autres. Pourtant, derrière lui, il y avait un homme pécheur qui demandait simplement « Aie pitié de moi ». Lequel des deux qui a été justifié devant Dieu? Celui qui est en avant, en se glorifiant, ou celui qui était derrière, simplement en implorant le pardon du Seigneur? Est-ce que ces mêmes pharisiens existent aujourd'hui au travers des religions? Lequel de ces pasteurs, dans le moment, peut se lever de nuit sur un appel pour aller tendre la main à un désespéré? Lequel de ces pasteurs va courir porter à manger à celui qui a faim? Ils vont donner une apparence qu'ils ont compassion. Ils vont demander à leurs membres d'aller le faire. Mais quand est-ce les autres mêmes le font-ils? Encore une fois, je le répète, est-ce un jugement contre eux que je prononce? Ou n'est-ce pas que c'est leurs propres œuvres qui vont les emmener en jugement? à cause qu'ils sont des ouvriers d'iniquité. Si on regarde dans l'Apocalypse de Jean, l'ange s'adresse aux églises. C'est une comparaison que je pourrais faire entre l'église de Philadelphie et l'église de Laodicée. À celle de Philadelphie, il est dit, je suis celui qui rouvre, que nul ne peut fermer, et fermer sans que nul ne peut ouvrir, parce que tu as peu de foi, mais tu n'as pas renié mon nom. Voici que je ferai. Je t'enverrai ceux qui se disent de synagogue, qui disent juifs qui ne le sont pas, ceux de la synagogue de Satan, et je les ferai reconnaître que je t'ai aimé. Mais à Laodicée, qu'est-il dit? Parce que tu te crois riche, parce que tu ne réalises pas ta nudité, ta pauvreté. Il dit, je te conseille d'acheter chez moi de l'or purifié par le feu. Que veut-il dire par je te conseille d'acheter chez moi de l'or purifié par le feu? N'est-ce pas au creuset de l'humiliation que les hommes sont agréés devant Dieu? Mais ces hommes ont-ils été agréés de Dieu au travers du creuset? Au travers de la mauvaise ou de la bonne réputation? Au travers de la disette? Au travers de toutes les calamités ou les épreuves? Ou sont-ils simplement agréés des hommes? Agréés même des pécheurs que pour eux autres, simplement à dire, je crois en Jésus, mon sauveur, je suis sauvé, ça ne les exige rien. Sont-ils pas plutôt agréés de ces gens? Oui, je crois au salut, Jésus est venu apporter. Mais pas juste en pensée. Parce que le diable aussi, il croit. Mais il en a peur du Christ. Ces gens, au moment où ils deviennent devant une contradiction, sont prêts à incanter toutes les malédictions possibles. Plutôt que de mettre en pratique la parole du Christ, qui dit, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Prie pour ceux qui te maudissent. C'est ceux qui rendent le bien juste à ceux qui leur font du bien. Ils n'ont pas d'honneur à l'avoir. Mais allez faire du bien même à ces gens qui vous font du mal. Vous verrez de vous-même si vous marchez par l'Esprit de Dieu. Dans le moment, oui, l'Église du Christ, le corps du Christ, est agonisant, parce que ceux qui font le mal ont plus de zèle que ceux qui font le bien. Dans le moment, ces gens-là écrasent les enfants de Dieu, les éloignent. La seule partie de la Bible qui les intéresse vraiment, c'est dans l'Ancien Testament, autour de Malachie 3. Ils s'en servent à cause de leur cupidité, à cause de leur peur de manquer. Ils servent la parole de Dieu, mais parlez-leur simplement. Isaïe 53 vont vous dire que c'est l'Ancien Testament. Parlez-leur d'Isaïe 66, le vrai culte, c'est encore l'Ancien Testament. Pourtant, il dit, voici sur qui je porterai mes regards. Sur celui qui a l'esprit abattu et le cœur brisé. Celui qui tremble à ma parole. Mais est-ce que ces prédicateurs ont la crainte de la parole de Dieu? Ont-ils la crainte face à Dieu de mépriser même les enfants de Dieu? Ont-ils la crainte face à Dieu d'injurier les gloires de Dieu? Qui sont ces imposteurs? Comment se fait-il qu'ils ont tant d'adeptes autour d'eux autres? N'est-ce pas parce qu'ils vous disent des choses agréables? Oui, dans le fond de mon cœur, j'ai une tristesse. J'ai une tristesse de voir tant d'enfants de Dieu venir à l'abattoir dans le moment. Parce que ces gens-là ne sont que des mercenaires. Tant qu'ils reçoivent de l'argent, ils sont prêts à dire n'importe quelle chose, n'importe quel mensonge, simplement pour avoir de l'argent. Mais qu'il arrive l'enfant de Dieu en manque d'argent, ils sont prêts à lui mettre toutes les malédictions sur la tête. C'est sûr que face au péché, il y a des enfants de Dieu à cause de leur nature humaine, vont s'achoper, vont tomber. Mais quelle est la véritable victoire? N'est-ce pas celle de se relever une fois de plus qu'on a tombé? Sachant que Jésus a tout payé. Comment peut-on arriver à perdre le salut? N'est-ce pas plutôt par cupidité? N'est-ce pas plutôt par orgueil? Est-ce que ces gens sont prêts à admettre leurs erreurs? Ou plutôt mettre des malédictions sur tous les enfants de Dieu qui sont en désaccord avec eux? Est-ce qu'ils peuvent attester que devant le Seigneur, ils ont l'assurance de leur salut? J'en doute. Peuvent le dire en parole, mais comment peuvent-ils avoir l'assurance quand ils savent qu'ils contredisent la parole du Christ? Si on regarde face à la souffrance, ils vous disent que dans le Seigneur, tout vous va bien. Paul, ses yeux coulaient avec du pu. Au point qu'il dit aux Galates, vous vous auriez arraché les yeux pour me le donner. Si on regarde Timothée, il est même dit à Timothée, prends un peu de vin à cause de tes fréquents malaises d'estomac. Cesse de boire de l'eau, bois un peu de vin. D'où prennent-ils que dans le Seigneur, il n'y a plus de souffrance? D'où prennent-ils que le serviteur du Seigneur est au-dessus du Seigneur en vous disant que Jésus a tout payé? C'est vrai que Jésus a tout payé, mais il a précisé qu'il n'y avait aucun serviteur au-dessus du maître. Par où le maître avait passé, son serviteur passera. Comment se fait-il que ces gens vous promettre un enlèvement? Toi, Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Accepte-le comme ton sauveur, tu seras sauvé, tu vas être enlevé. Si on en revient à 1 Corinthiens 13, il dit, il y a trois choses qui demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. La plus importante des trois, c'est l'amour. Comment l'enlèvement va-t-il se faire? Simplement en disant Jésus. Jésus nous apporte une précision. De deux qui vont être dans un lit, un va être laissé, l'autre va être pris. Comment pourront-ils dire Jésus s'ils sont endormis? N'est-ce pas plutôt par l'amour? Au moment où l'amour véritable, Jésus qui est vérité va apparaître, tous ceux qui l'ont aimé sans le voir, ne croyez-vous pas qu'ils vont être enlevés d'un coup sec? Mais ces gens qui vous prêchent un salut sans œuvre, un salut qui ne se perd pas, un salut qui fait juste dire, je crois au Seigneur Jésus, je l'ai accepté de mon sauveur, je suis sauvé, sans faire ce que Jésus a demandé, sans avoir cet amour que Jésus est venu donner, sans transmettre cet amour que Jésus a mis dans nos cœurs au moment où on l'a accepté. Comment seront-ils enlevés? N'est-ce pas encore là un mensonge qu'il vous prêche? Si on regarde au travers des églises, on regarde au temps où il y a eu réforme, au temps où Paul dénonçait même l'apostasie. Paul regardait les peuples religieux comme les Crétois. Paul les reprochait même, Crétois, perpétuel menteur. Même vos prophètes ont prophétisé contre vous en disant que vous étiez des perpétuels menteurs. Les Crétois étaient un pays au sud de la Grèce. Pourquoi qu'ils parlaient aussi grec? C'était une langue des plus populaires du temps. Si on regarde au travers des églises religieuses, on prend un mot grec, Kyrie eleison, Christe eleison. C'est Seigneur, prends pitié, Jésus, prends pitié. Mais que ce mensonge-là, ça a l'air d'une belle prière, mais n'ont-ils pas compris que Jésus a déjà pris en pitié la nature humaine? N'ont-ils pas compris que Jésus a déjà payé le prix des transgressions? N'ont-ils pas compris que Jésus est venu mourir pour chacun de nos manquements? Est-ce parce qu'ils n'acceptent pas cette vérité-là, que Jésus a tout payé? Est-ce qu'ils n'acceptent pas cette vérité-là, que Jésus a demandé de faire les mêmes choses qu'il a faites, et même davantage? Est-ce que les religions vont toujours continuer de se servir de la parole du Christ? Ceux qui vont s'en servir. Satan lui-même a été tenté le Christ dans le désert avec la parole biblique. Il est écrit. Mais est-ce que ces gens-là réalisent que tout ce qu'ils font, c'est de prendre la parole écrite et tenter de tuer les enfants de Dieu? Si seulement ils acceptaient de se mettre en question, je suis persuadé que Jésus a encore assez d'amour, assez de miséricorde, pour se pencher sur eux et leur révéler à leur cœur qu'il est vérité. Comment ces gens-là osent-ils injurier les gloires de Dieu? On pourrait en parler longuement. J'ai même attendu à la radio des pasteurs offrir des cours d'interprétation de la parole. La parole de Dieu n'est pas sujette à interprétation. Jésus nous dit, Père, je te loue, je te bénis d'avoir caché ça aux sages et aux intelligents. Mais dans ta bienveillance, tu la révèles à tes enfants. Comment peuvent-ils interpréter une révélation? Comment se permettent-ils de se servir de la parole pour induire les enfants de Dieu en erreur? Si on regarde ces mensonges qu'ils prêchent, qui préférons-nous croire? Jésus qui est la seule, unique vérité, ou ces hommes qui ont été agréés des hommes? Jésus nous demande de les dénoncer ouvertement. Qu'est-ce qui fait souffrir le cœur des enfants de Dieu dans le moment? N'est-ce pas parce qu'on a manqué de courage, parce qu'on a manqué de zèle, qu'on a manqué d'audace pour dénoncer ces usurpateurs? Je l'ai dit pour la honte de tous. Oui, les enfants de Dieu ont manqué d'audace, de zèle, ont manqué de foi face à Jésus. parce qu'ils avaient reconnu Jésus comme seule vérité, ils auraient pu opposer leur front à ces usurpateurs. Paul nous demande même de leur fermer la bouche. Est-ce qu'on a cette foi en Jésus pour faire ce que Jésus nous a démontré? Père nous dit qu'il sert des choses viles et méprisables, confondre les sages. Est-ce que ces gens-là ne sont pas sages à leurs propres yeux? Vous, les enfants de Dieu qui étaient rejetés comme viles et méprisables, croyez-vous que Jésus peut se servir de vous pour aller les reprendre? J'espère de tout mon cœur que vous croyez Jésus. J'espère de tout mon cœur que vous mettez sa parole en pratique, afin que Jésus lui-même, par sa vérité, vous rende libre et qu'en même temps, il puisse venir habiter dans vos cœurs. À ce moment-là, vous pourrez dire comme Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit au-dedans de moi. Et même si ces prédicateurs ou ces pasteurs vous disent qu'il n'y a plus d'apôtres, il n'y a plus de prophètes, vous saurez dans votre cœur que ce sont des menteurs. Parce que s'il n'y avait plus d'utilité pour les apôtres, Jésus nous dit comment n'entendrait-il parler s'il n'y avait pas d'envoyé. Un envoyé, c'est un apôtre. Il le fait dire au travers de la bouche de Paul. Il le fait dire au travers de ce que Paul a enseigné. Quand Jésus a fait la prière, sacerdotale, il a prié son Père pour ceux qui ont cru en lui, puis pour ceux qui, à cause de ceux qui avaient cru en lui, croiraient en lui. Mais il a la même promesse qui est dite, afin qu'il soit un en nous comme nous en eux, comme moi en toi. Est-ce que ces prédicateurs croient au corps du Christ? Ou ne méprisent-ils pas? Est-ce que ces prédicateurs mettent en parole la vérité que Jésus dit démontrer en disant « Bénissez, ne maudissez pas » ou se plaisent-ils à maudire et tenter de lier et jeter à la géhenne tous ceux qui viennent les contredire? Qui préférons-nous croire? Jésus ou l'homme? Pour terminer cette cassette, j'aimerais simplement dire à chacun des enfants de Dieu, priez pour vos ennemis. Même si ces gens vous maudissent, bénissez-les. Parce que c'est au travers des malédictions qu'ils vous mettent sur le dos. La souffrance dans votre cœur vous rapproche du Seigneur. Ça revient encore à dire une parole que Jésus a dit qui est vraie. Ils vous ont haï sans raison. Pourtant, tout ce que vous faisiez, c'était de les aimer. Mais aimez-les assez pour leur dire. Est-ce que vous croyez que Jésus n'a pas le bras assez long pour aller les rejoindre? Moi, je crois que Jésus est encore capable d'aller les rejoindre. Mais ma tristesse est que ces gens, à cause de leur orgueil, à cause de leur cupidité. Il y en a certains d'entre eux qui vont continuer à injurier les gloires de Dieu. Mais pour ces gens-là, qui ne veulent pas croire à Jésus, Paul dit une parole, que celui qui n'aime pas le Seigneur soit anathème. S'il n'aime vraiment pas le Seigneur, mais que la parole de Paul s'accomplisse. Mais pour ceux qui, à travers de ces gens-là, prêchent ces faussetés et qui le reconnaissent, je m'en offre de les bénir, de leur donner la grâce de se tourner vers lui, vers Jésus, vers la vérité. Pour les autres, il me reste 3 mots à dire. Peser, secouer, tasser.
Voici ce que dit l'Esprit de celui qui vient bientôt.
béni. Toi qui marches dans ses voies, Dieu te protège jour et nuit sur la chemin des croix. Que l'Éternel te garde toujours dans sa volonté, qu'il conserve en toi sa bonté et sa miséricorde. Que notre Dieu te bénisse, qu'il console ton cœur attristé, puisse-t-il guérir ton âme triste par les blessures du passé. Que l'Éternel te garde, toi son enfant bien-aimé, puis-il te conduire par l'Esprit comme il te l'a promis. Comble de ses bienfaits, puis-tu t'accorder la force de combattre le bon combat, marchant dans la victoire, grandissant de gloire en gloire, jusqu'au jour où Christ reviendra. Sois fidèle dans ma foi, jusqu'au jour où Christ reviendra, que sa paix soit en toi.